Louange et remerciements soient rendus à notre Dieu de ce que nous savons et de ce que nous pouvons croire, que cette puissance du sang est encore valable aujourd'hui et qu'elle rend libre aujourd'hui encore quiconque voudrait être libre. Et pour cela, nous sommes reconnaissants et heureux. Avant la prière, je voudrais lire quelques versets du psaume 40. Ici, il est dit par David, oui, il a exprimé, et il dit, psaume 40, verset 2, « Patiemment, je me suis attendu au Seigneur, et il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri. Il m'a retiré de la fosse du malheur, du fond de la boue. » Et il a posé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront du respect et auront confiance au Seigneur. Verset 5. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, qui n'est pas avec les orgueilleux, ni avec les menteurs. Nombreux, verset 6, nombreuses sont les merveilles que tu as faites, et tes desseins de salut envers nous, ô Seigneur mon Dieu. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Peut-être jusqu'ici, c'est quelques paroles. David, ce grand homme de Dieu, dit ici, au verset 2, « Patiemment, je me suis attendu au Seigneur, et il s'est penché vers moi, et il a entendu mon cri. » Puis, il parle de ce qui lui est arrivé. Il dit, verset 3, « Il m'a retiré de la fosse du malheur, du fond de la boue. » C'est quelque chose de merveilleux que Dieu fait pour les enfants des hommes. Lorsqu'il les fait sortir de tout ce dans quoi ils sont plongés ou bloqués, si cet homme de Dieu exprime ceci, ou exprime ici le fait d'être dans une fosse, là, dans une fosse, on ne peut pas se libérer soi-même. Mais nous lisons ici que le Seigneur l'a tiré de là, que le Seigneur l'a fait sortir. Et du fond de la boue, quand on y est plongé, si on le considère de manière naturelle, si nous avons peut-être déjà vu ou expérimenté un marécage, je ne le sais pas. Mais si on est plongé dans un marécage, il n'est plus possible d'en sortir si on ne fait pas attention. Une fois, en tant que des paysans, notre cheval s'est enfoncé dans un marécage et vous pouvez vous imaginer ce que c'était. On ne peut pas les décrire avec des mots. Bien-aimés, au lieu d'en sortir, on s'enfonce de plus en plus dans le marécage. Et David dit ici, il exprime qu'il s'était enfoncé dans la boue et qu'il y a un qui l'a exaucé. Il y a un qui était capable de l'aider et de le tirer de ce marécage boueux. Chers frères et sœurs, je pensais en moi-même, qu'en est-il de nous? N'étions-nous pas aussi dans une fosse de perdition? Y avait-il quelque chose de bon en nous? Et n'étions-nous pas tous engloutis comme dans un marécage boueux? Mais la grâce de Dieu nous a cherchés et nous a trouvés. Et nous pouvons dire que la grâce de Dieu nous a aussi sorti de ce marécage. Mais encore plus, David dit ici, et il a posé mes pieds sur le roc. Bien-aimé, quand on était dans un marécage, et qu'on en est sorti, alors on sait ce que cela signifie de pouvoir se tenir sur le roc ou bien sur un fondement solide. Oui, c'est quelque chose de particulier. Mais bien-aimé, ce fondement solide, ce rocher sur lequel David était placé, était le rocher qui ne vacille pas, qui ne faillit pas. Et Paul dit, nous sommes édifiés, où j'ai posé le fondement, où comme il est écrit, oui, et tout le monde, chacun peut bâtir dessus. Et le fondement, c'est Jésus-Christ. Et c'est sur ce fondement que nos pieds sont posés et sur lequel nous pouvons nous tenir. Oui, même plus que cela. Quand Dieu fait quelque chose, il fait la chose parfaitement, complètement. Il nous place sur un rocher. Ensuite, il est dit au verset 4 de Psaume 40, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Ce qui n'était pas auparavant, il l'a reçu de Dieu. » Et ce que nous n'avions pas aussi, nous l'avons aussi reçu de Dieu, afin que nous puissions louer notre Dieu, lui offrir l'honneur et la louange. Et il dit dans la suite du verset 4, « Beaucoup le verront et auront du respect et auront confiance au Seigneur. » Chers frères et sœurs, je crois que nous aussi, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aller chercher auprès de lui une nouvelle confiance et un nouvel espoir. Et ensuite, il dit au verset 5, « Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. » Oui, celui qui se détache de tout le reste, de toute autre chose, de tous les orgueilleux, de tous les amis infidèles, ou de tous les menteurs, comme il est dit dans ce verset. Voici, ces hommes de Dieu se sont détachés de tout. Ils ont servi Dieu de tout leur cœur. Bien-aimés, nous aussi, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous devons prendre nos distances par rapport à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Sinon, nous allons nous enfoncer dans la boue du péché. Mais nous pouvons dire, il a posé nos pieds sur le roc, sur un fondement solide. Et sur ce fondement, nous voulons demeurer. Et ensuite, David pouvait continuer au verset 6. Nombreuses sont les merveilles que tu as faites. Frères et sœurs, je crois qu'il ne l'a pas seulement fait dans les jours de David, mais il l'a fait aussi dans nos jours et le fait encore jusqu'à cette heure, car il n'a pas changé. Il est et demeure le Dieu qui fait des miracles. Et ceux qui croient en lui et lui font confiance peuvent voir ces choses. Peut-être qu'un autre ne les a pas vues du tout, mais David parle de ces choses et dit au verset 6, « Nombreuses sont les merveilles que tu as faites. » Il parle de ces choses. Et nous ne pouvons que dire la même chose dans notre époque. « Nombreuses sont les merveilles que tu as faites et tes desseins de salut envers nous. » Oui, nous pouvons nous approprier cette phrase. Oui, ces desseins de salut sont si merveilleux. Il est avec nous et il ne veut que du bien pour nous, que le meilleur. Et nous en sommes si heureux et si reconnaissants. La suite du verset 6. Ô Seigneur mon Dieu, nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Oui, qui peut compter toutes les choses que Dieu fait? Qui peut toutes les écrire? Qui peut toutes les énumérer? C'est impossible. Mais bien aimé, pour tout cela, nous voulons louer notre Dieu et nous attacher à lui de plus en plus, car nous savons que sa venue est très proche. Et il dit ensuite au verset 18, « Même si je suis malheureux et pauvre, le Tout-Puissant pourvoira à mes besoins. » Amen. Et je pense que nous aussi, nous pouvons le dire du fond de notre cœur. Même si je suis misérable et pauvre, le Tout-Puissant prendra soin de moi. C'est quelque chose de merveilleux. Verset 18, la suite. Tu es mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Que Dieu puisse nous bénir ce soir de la richesse de sa grâce. C'est ma prière intime. Levons-nous et adorons ensemble. Fidèle Seigneur, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ce soir. Nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions de ce que tu nous as rassemblés ici. Nous te remercions aussi pour les bien-aimés qui sont revenus de vacances, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu as étendu ta main protectrice sur eux, ô Seigneur. Nous te remercions de nous avoir aussi soutenus jusqu'à cet instant, ô Seigneur. Même si nous sommes misérables et pauvres, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu es avec les tiens. Tu nous entoures par devant et par derrière. Et tu es aussi au-dessus de nous, ô Seigneur. Et tu es aussi en nous, Seigneur. Sois remercié pour cela et louange à ton glorieux nom. Ce soir, nous sommes de nouveau venus ici, Seigneur, pour invoquer ton nom glorieux, pour t'offrir l'honneur et la louange pour toutes les grandes œuvres, pour tous les miracles, pour tout ce que tu as fait, car les miracles que tu accomplis, Seigneur, sont nombreux. Oui, les miracles que tu accomplis pour les hommes sont nombreux, jusque dans nos jours, Seigneur. Nous t'adorons au milieu de nous et nous te prions de continuer à être avec nous et à nous bénir, ô Dieu. Seigneur, tu nous as toujours bénis à tout moment, même le week-end passé. Tu nous as parlé si puissamment par ta précieuse et sainte parole. Seigneur, nous sommes si reconnaissants de ce que tu as préparé des mets délicieux pour ton peuple en ces jours. Oui, en effet, Seigneur, tu prends soin de nous, Seigneur, mon Dieu, plus qu'un père terrestre ou des parents terrestres ne prennent soin de leurs enfants, tu prends soin de nous, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, même si nous sommes misérables et pauvres, David a pu l'exprimer et nous aussi, nous pouvons exprimer ces paroles. Le Tout-Puissant prendra soin de moi. Seigneur, sois remercié de ce que nous pouvons placer cette confiance en toi. Car tu es notre secours, tu es notre sauveur, tu es notre Dieu, Seigneur. Gloire à ton merveilleux nom. Seigneur, continue à être avec nous. Bénis-nous, Seigneur, et nous serons bénis. Guéris-nous, et nous serons guéris. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En effet, je voulais déjà être en déplacement, mais voici que nous sommes tous ici pour adorer Dieu, pour le remercier encore une fois. Nous l'avons très souvent fait et nous le ferons encore pour rendre grâce à notre Seigneur qui a tant fait pour nous. Nous sommes tous touchés de ce que Dieu se donne tant de mal, de ce qu'il parle, de ce qu'il agit, de ce qu'il ouvre les yeux, de ce qu'il ouvre les cœurs, qu'il accorde la grâce de comprendre encore mieux son plan. Amen. De tout classer selon la parole. Non pas comme nous pensons, mais comme cela est juste devant Dieu. Paul écrit à Timothée qu'il doit être un ouvrier qui présente avec exactitude la parole de la vérité et qui n'a pas à en rougir, selon 2 Timothée 2, verset 15. Et c'est ce que nous voulons être, nous aussi, en ce jour-là. Des hommes qui auront bien présenté la parole de la vérité en toute conscience, afin que nous n'ayons pas honte et ne soyons pas confus en ce jour. Vous savez en effet que nous avons mis l'accent sur le fait de ne pas porter nos propres pensées, mais celles de Dieu. Laisser sa parole nous parler et savoir faire la différence entre la révélation de la parole et nos pensées. Lorsque l'on lit, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, lorsqu'on lit des exposés des hommes qui laissent libre cours à leurs pensées, ce qu'ils exposent est tellement évident qu'on ne peut pas faire mieux. Et pourtant, ils sont bien à côté de la chose, de sorte qu'on peut l'entendre et qu'on puisse le voir. Ce n'est pas la raison qui compte dans les choses spirituelles, mais c'est le discours véritable de Dieu. Et il y a suffisamment de personnes qui connaissent mieux sur Dieu, mais qui, malgré tout, sans révélation, dépendent de leur propre savoir. Et c'est parfois triste de l'entendre ou même de le lire. Et pourtant, cela nous rend heureux et reconnaissants de savoir que nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais de ce que Dieu a dit, de ce qu'il a révélé et même de ce qu'il a fait. Et alors, nous ne sommes plus du tout interrogés, mais nous sommes ceux qui écoutent, ceux qui reçoivent et ceux qui sont bénis par Dieu. Je suis venu ce soir pour m'asseoir et non pour venir devant. Comme si c'était une obligation pour moi de venir devant. Mais aujourd'hui, je vais me rasseoir. Sauf si quelqu'un a une question. Ici, on prêche beaucoup, vraiment comme nulle part ailleurs dans le monde. Partout dans le monde, le culte est organisé de manière bien différente. Mais ici, c'est la parole qui a la priorité pour que Dieu vienne à ce qui lui revient de droit. Mais peut-être que quelqu'un a une question biblique que nous pourrions traiter. Ce serait bien. Combien de personnes ont été attentives le dimanche matin? C'était aussi surprenant pour moi. Une parole glorieuse du Seigneur. Dieu a mis en lumière des merveilleuses vérités bibliques. Et ces vérités bibliques ne doivent pas seulement être écrites sur papier comme promesses, mais elles doivent devenir réalité en nous. Et nous remarquons la différence entre le monde des rêves que les hommes se construisent eux-mêmes et la réalité divine dans laquelle nous avons été placés par Dieu. Amen. Jésus-Christ était Fils de Dieu. Parole qui a été faite chair. Et nous, nous sommes fils et filles de Dieu. Qui est-ce que ça peut étonner que la partie de l'Écriture qui a été promise pour cette époque, que cette partie des Écritures doive maintenant devenir une réalité divine à travers nous, de même que l'Écriture s'est accomplie avec notre Seigneur dans son temps. Nous devrions lire ces deux prédications au moins deux ou trois fois. Ces deux dernières prédications sont la base, le fondement sur lequel on, sur lesquels on a construit depuis le début. Et nous voyons bien de quoi il s'agit. Il s'agit des différentes semences. Et dans ce cas, nous voulons considérer la semence de Dieu. Et il est certain que Dieu a une semence sur la terre. Vous savez, j'avais l'intention de le garder pour moi, mais je peux le dire. J'ai eu du mal à traduire quand Frère Branham a dit « Noé était la parole de Dieu en son temps. » Alors, j'avais vraiment eu tellement de mal. Et j'ai dit, Seigneur, comment puis-je le dire d'une meilleure manière? Imaginez-vous, comment puis-je le dire d'une meilleure manière? Je voulais être plus clair. Et à moi-même, il me manquait la clarté sur ce qui était exprimé là. Car, d'une part, la parole du Seigneur fut adressée à Noé. Et d'autre part, elle fut accomplie par lui. Il était là comme le résultat divin de la parole qui lui avait été adressée. Il n'était pas là comme une théorie, mais comme une réalité. Et tout cela est devenu clair pour moi après le service de dimanche matin. Après que le service était terminé, cela a vraiment commencé à émerger en moi. Et ces pensées me sont venues. Frère Branham a dit, Moïse était la parole de Dieu en son temps. Et que Dieu me pardonne. Mais vous pouvez le lire vous-même. Peut-être que j'ai traduit là, Moïse avait la parole de Dieu pour son temps. Pouvez-vous vous imaginer cela? Je ne le sais pas exactement. Il faudrait aller voir ici et là dans le sérieux. À partir du moment où il nous apparaît à toi et à moi que Moïse n'a pas seulement prêché la parole de Dieu, mais qu'à travers lui, la parole de Dieu s'est accomplie, la parole de la promesse, et que lui-même et Israël ont été un produit de l'amour divin et un résultat de la parole de Dieu dans leur temps. Alors la parole n'a pas seulement été donnée ou proclamée. Voyez-vous, Christ était la parole faite chair. Il était là comme réalité. Et tous ceux à qui la parole de Dieu a été adressée ont été appelés Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été placés dans la condition divine. De manière terrestre, ils étaient encore dans la chair. Mais selon l'Esprit, ils étaient fils de Dieu. Des hommes en qui le Seigneur, déjà en ce temps, a fait de grandes choses. Qu'en est-il de nous en ces jours? Ces jours où le plan de salut de Dieu nous a été révélé et manifesté comme jamais auparavant. Il n'y a jamais eu un temps où la pensée ou les pensées de Dieu et les mystères de la parole et tout le conseil du Seigneur ont été révélés et manifesté aussi profondément, aussi largement et aussi haut, et aussi que dans ces jours. Et cela se fait, cela a lieu dans un très grand but. Les fils de Dieu doivent être manifestés. La parole qui nous a été adressée doit être et sera présentée comme une réalité divine. Et elle sera la parole de Dieu, comme le Seigneur lui-même, en tant que fils de Dieu. Oui, l'Écriture s'est accomplie en lui. Il doit en être de même avec nous. Et je crois que nous avançons vers ce point. Et nous sommes certains que ce que nous croyons est la parole de Dieu et que Dieu ne confirme pas les idées. Et nous le savons. Mais qu'il confirme sa parole, nous le savons aussi. Et nous n'avons pas besoin d'hésiter. Mais nous pouvons nous attendre dans la foi à ce que la parole a en elle la puissance de Dieu pour faire de la promesse qu'elle contient une réalité. Lorsque la parole a été adressée à Marie, la parole de la promesse, aucun effort humain n'était nécessaire. Tout au contraire, l'effort humain n'aurait fait qu'empêcher l'action de Dieu. La parole a été proclamée. L'Esprit s'est joint à elle et voilà, la parole s'est faite chair et Christ est né. Il en va de même pour nous. Et lorsque Frère Branham souligne ou mentionne, ce n'est pas ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour ensuite dire que je l'ai fait. Mais il s'agit de ce que Dieu fait. Et c'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Et nous croyons qu'aussi certain que la parole a été donnée, de la même manière, l'Esprit tombera sur la semence de la parole. Cela est aussi contenu dans ces deux dernières prédications. Que pendant les semailles, il y avait la pluie de la première saison. Et avant la moisson, il y a la pluie de l'arrière-saison. Et lorsque Frère Branham parle et dit, si les gens parlent maintenant de la pluie de l'arrière-saison, c'est un non-sens. Il utilise cette expression. Et nous croyons que Dieu enverra une pluie de l'arrière-saison en relation avec le commencement de la moisson. La récolte n'est pas encore là. Certains sont déjà entrés, mais la récolte elle-même n'est pas encore faite. Dieu la ramènera dans le grenier. Le blé sera mis dans le grenier et livré brûlé. Il y a tellement de choses exprimées dans cette parole. Et je suis heureux que Frère Rousse ait fait une comparaison pratique. Et parfois, il nous est utile de sortir des circonstances liées à la nature pour savoir ce qu'il en est en réalité. Et cela a été parfaitement exprimé. Le marécage boueux est comparé au fondement solide, au rocher. Et c'est un fait. Celui qui est tombé dans un marécage boueux n'en sort pas. Il ne peut pas en sortir, il est dedans. Et plus il se débat, plus il s'enfonce. Il faut qu'il soit sorti de là. Il faut qu'on le sorte de là. Et nous pouvons dire quelques mots à ce sujet. Ici, il est écrit dans le psaume 40, verset 3, deuxième partie. Et il a posé mes pieds sur un fondement solide ou sur le rocher ou le roc. Pas seulement sur le sol, à côté de ce qui pouvait être le marécage, à côté de la boue, mais directement sur un sol ou sur un fondement solide. Quelle comparaison! C'est le Seigneur qui a fait cela pour toi et pour moi. Il ne s'est pas contenté de nous tirer de là, mais il a posé nos pieds sur le sol, le fondement solide, sur le rocher du salut. Et nous savons ce qui a été dit à ce sujet. Tout est fondé sur la révélation. Et Jésus est la révélation de Dieu dans la chair. Et cela aussi a été souligné. Verset 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un cantique de louange à notre Dieu. Tout cela semble aller de pair. L'un entraîne l'autre, et l'autre, le troisième, et le troisième, le quatrième. Le fait d'être retiré ou tiré du marécage, le fait d'avoir été posé sur le fondement solide, sur le roc, puis d'avoir donné de la fermeté à nos pieds, d'avoir mis un nouveau cantique dans notre bouche et d'avoir mis un chant de louange à Dieu dans notre cœur. Tout cela va ensemble. Maintenant, nous pouvons aussi le faire à l'envers et essayer de voir lentement si le cantique de louange à Dieu est dans notre cœur, si nous avons été placés sur le fondement solide, sur le roc. Ce sont là des points forts, spirituels, qui ont été énumérés ici. Et au fond, ils vont tous ensemble. L'un suit l'autre, et cela va ainsi jusqu'au cantique de louange à notre Dieu. J'ai un grand livre, environ 800-900 pages, avec le discours de Martin Luther, et ce livre est dans mon bureau. Et si j'ai besoin d'un réconfort, peu importe ce que j'y découvre, il n'y a en effet jamais eu d'autres hommes qui eut à affronter le diable de cette manière et presque de manière quotidienne. Et les exemples pertinents qu'il donne là ne laissent vraiment qu'un sourire. Il a lutté contre les puissances des ténèbres, mais il a toujours été conscient que Dieu a remporté la victoire en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il parle même, cela m'a beaucoup égayé, il parle de l'affliction et de la tristesse et du dépit et ainsi de suite. Et puis il dit dedans que Satan peut être mécontent puisqu'il a été précipité de la gloire. Et dans tous ceux où il trône et réside, ils ont aussi toutes les raisons d'être comme lui, c'est-à-dire mécontent. Mais celui qui se confie en Dieu et qui montre alors l'autre côté est confiant. Et il y a dans ce livre des choses si fortes, si bonnes, que je n'ai pas le temps de les lire. Mais il n'est pas nécessaire de lire toutes les pages entières, cela suffit déjà. Toutes ces choses sont si bonnes. Résumons. Sortir de la fosse du malheur, du marécage boueux, les pieds posés sur le fondement solide, les pas rendus fermes. Le sol ne vacille plus, ne cède plus, on ne s'enfonce plus, on ne balance plus, on n'oscille plus. On a un fondement solide sous les pieds. Et on dit, perdre la fermeté de mes pas. Et après cela, nous ne sommes pas étonnés qu'il soit écrit au verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un cantique de louange à notre Dieu. Que cela nous soit donné à tous par grâce. Ce cantique de louange venant de notre cœur, qui est exprimé par des paroles, et cela par ceux en qui Dieu a fait de grandes choses. Et nous savons que le Seigneur n'a jamais fait de mal à aucun d'entre nous. Tout au contraire, il a secouru et a béni. Maintenant, il y a un verset que nous ne voulons pas négliger ou laisser passer. Verset 4, deuxième partie. Beaucoup le verront et auront du respect et auront confiance au Seigneur. Quand les hommes verront ce que Dieu a fait en toi et en moi, et lorsqu'ils entendront le cantique de louange et le cantique nouveau, alors ils éprouveront, ils auront du respect pour le Seigneur Dieu. Et ils auront de la confiance en lui. C'est un temps où la confiance peut être mise en avant, où la foi peut être mise en avant, écrit de manière visible, où l'amitié, oui, écrit aussi de manière visible, ou mis en avant. Ce sont des termes qui ne sont plus courants et que l'on ne trouve plus. Mais ici, nous avons affaire à Dieu, et avec son aide et avec son salut, non pas avec des propositions bien intentionnées d'un fils, mais ici nous avons affaire à des faits divins, à des actes divins qui doivent nous amener et nous amèneront à ce qui est écrit ici. Beaucoup verront cela et auront du respect et de la confiance au Seigneur. N'est-il pas vrai que les gens cherchent la guérison? Que les gens qui cherchent la guérison obtiennent plus de foi par un seul témoignage d'une personne qui a été guérie que par 100 prédications sur la guérison des malades? Est-ce vrai ou non? Le témoignage personnel d'une personne qui a fait l'expérience de Dieu pèse plus lourd que beaucoup, beaucoup de prédications. Si quelqu'un peut venir et dire, j'étais aveugle et j'ai recouvré la vue, peu importe ce que c'est, ce n'est pas seulement une prédication, mais une prédication mise en pratique est devenue une réalité divine. Et un tel témoignage sur l'action de Dieu, est plus que ce que peut être une prédication tout entière. Et quand il est écrit ici au verset 4 dans la deuxième partie, beaucoup verront cela et auront du respect et de la confiance au Seigneur. Alors c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Les gens verront, entendront et éprouveront du respect pour le Seigneur et auront eux-mêmes confiance en lui. Nous devons nous préparer et nous accorder au fait que le Seigneur Dieu doit réaliser et accomplir les dernières promesses dans ces derniers jours. Et nous croyons qu'à cette fin, l'Église doit servir d'instrument. Elle, qui est son corps, la plénitude de celui qui accomplit tout en toutes choses. Et sans tête, le corps n'est pas concevable. La tête et les membres vont ensemble. Et cet assemblage divin se fait maintenant. Parmi ceux qui ont entendu la parole et ce qui est écrit comme promesse et ce sera ensuite par eux. Frère Branham a souligné à maintes reprises les passages bibliques d'Hébreu chapitre 13, verset 8, et Jean 14, verset 12. Notre Seigneur Jésus a dit, « Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et même plus grande parce que je vais au Père. Et aussi le passage d'Hébreux 13, verset 8. Nous devons et nous pouvons nous familiariser avec de telles promesses. Nous ne pouvons plus nous contenter seulement de prêcher ce qui est écrit. Nous devons nous préparer à le voir s'accomplir au milieu de nous. Amen. Si c'était ta parole ou la mienne, alors elle s'arrêterait. Elle reviendrait à vide. Elle serait prononcée et se perdrait. Mais si c'est la parole de Dieu, il est impossible qu'elle revienne à vide à lui. Elle doit s'accomplir ou accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Et je crois que le Seigneur appelle une épouse parole dans ces derniers jours. Et que personne ne se trompe et ne pense, oh, ce n'était pas nécessaire, il n'était pas nécessaire ou on n'avait pas besoin de le dire. Non, tout cela était nécessaire, tout ce qui a eu lieu, pour accomplir une grande purification parmi le peuple de Dieu, une purification par le bain dans l'eau de la parole. Et un bain n'est pas seulement une courte toilette, mais dans un bain, on est entièrement immergé dans l'eau. Et Dieu veut justement que ce bain d'eau dans la parole soit si authentique et si bon qu'il ne reste plus rien de sale en nous. Qu'il en ressorte une épouse purifiée, sanctifiée, sans tache ni ride, qui porte l'essence, la nature de Jésus. Et c'est ce qui est écrit dans la prédication, l'Église à la parole du Seigneur, et par elle, Dieu accomplit et confirme toute promesse. Si nous prenons peut-être un crayon de couleur, toujours prêt à souligner et à marquer où se trouvent ces pensées importantes, et afin de ne pas passer outre. Mais maintenant, il s'agit vraiment que nous soyons tous enseignés par Dieu, que nous soyons informés de manière claire, uniforme, sur ce que Dieu avait à nous dire, qu'il n'y ait plus de va-et-vient, ni de double discours possible, mais que nous arrivions ainsi à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, afin que le Seigneur puisse confirmer sa parole. Je m'attends, oui, simplement à ce que l'ennemi puisse céder. Et vous savez bien, et cela aussi a été dit plusieurs fois, nous ne sommes pas venus à un pique-nique, non, mais nous avons été engagés dans un combat. Et si c'est un combat, alors il faut combattre. Et si nous ne sommes pas vainqueurs, alors c'est l'ennemi qui est vainqueur. Et si nous sommes vainqueurs, il doit être vaincu. Et dans un combat, une décision doit être prise. Et c'est vers cette décision que tout nous pousse maintenant. Et le plus grand combat de tous les temps va se dérouler maintenant. Il n'a pas encore eu lieu. Il va avoir lieu maintenant. Satan va faire appel à toutes les puissances de l'enfer. Mais Dieu, dans le ciel, rit et se moque d'eux. Et il nous dit que sur la croix de Golgotha, Satan, la mort, l'enfer ont été vaincus. Amen. Et il nous dit que nous, en tant que son peuple, nous avons été placés dans cette victoire. Victoire que nous n'avons pas besoin de remporter maintenant, mais dans laquelle nous avons été placés. Amen. En effet, les Écritures enseignent que nous avons été crucifiés avec Christ, que nous avons été ensevelis avec lui, que nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle, et même que nous avons été transportés avec lui dans le monde céleste. En conséquence, nous étions en Christ. Et remarquez de quoi il s'agit dans ces prédications, comme Frère Branham comment Frère Branham l'explique. Il dit tout simplement, il fut un temps où je ne pouvais pas encore être en communion avec mon Père. J'étais encore dans ses reins, comme une semence. J'étais là. Mais ensuite, le moment est venu et je suis entré dans cette vie. Puis il dit, il en est ainsi pour nous. En tant que fils et filles de Dieu, en tant que semence de Dieu, nous étions déjà en Dieu. Et puis, il est venu dans la chair. Il a été lui-même engendré par l'Esprit. Et nous avons été en lui comme Ève et Adam. Et nous avons été tiré de lui en étant engendré et régénéré pour une espérance vivante. Pardonnez-moi cette comparaison, elle n'a presque pas sa place ici, mais pourtant je vais la dire. De manière terrestre, il y a peut-être des enfants qui sont venus dans le monde et qui n'étaient pas désirés, qui ne sont pas nés par le produit de l'amour, mais avec Dieu, cela n'existe pas. Une belle parole se trouve dans Éphésiens chapitre 1, au verset 3 et 4. Par amour, il nous a prédestinés à être des fils de Dieu. Dieu a engendré des fils et des filles par amour. Amen. Pas seulement pour les avoir, mais par amour. Et c'est pourquoi nous pouvons savoir que nous sommes sa propriété éternelle. Personne n'a besoin de s'inquiéter du fait que Dieu ne nous a pas voulu. Bien au contraire. Parce qu'il t'a voulu, toi et moi. Parce que nous étions destinés à être des fils et des filles de Dieu avant la fondation du monde. C'est précisément pour cela qu'il nous a engendrés et nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Et lorsqu'il est écrit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, alors nous voulons le croire de tout cœur. Celui qui croit honore Dieu. Et il est écrit, au verset 5, deuxième partie de Psaume 40, « Heureux l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. » Il ne s'attache pas aux orgueilleux, ni aux amis infidèles, oui, ou aux menteurs. Oui, ce sont toutes des vérités bibliques. Nous ne pouvons nous en tenir qu'à Dieu et à ceux qui s'en tiennent à Dieu. Celui qui vient à Dieu ne sera pas allié ou fier et orgueilleux, mais il sera humble et se présentera ainsi devant la face du Seigneur. Oui, il ne marchera pas avec les orgueilleux, avec les menteurs et les infidèles. Nous pouvons tous renoncer à de tels amis qui répandent les mensonges, qui sont infidèles. Il est dit plus loin au verset 6 de Psaume 40, « Nombreuses sont les merveilles que tu as faites, et tes pensées de salut envers nous, ô Seigneur mon Dieu. Il n'y a rien de comparable à toi. » Nous avons lu ici dimanche matin le texte de la sagesse de Dieu. Oh, comme elle est profonde et élevée, la sagesse divine et la connaissance de Dieu. Qui a été son conseiller, Romains 11, verset 33, qui a connu sa pensée. Il est dit au verset 6 de Psaume 40, « Nombreuses sont tes merveilles, ou les merveilles que tu as faites, et tes pensées de salut envers nous, ô Seigneur mon Dieu. » J'aurais voulu que nous soyons tous des auditeurs lorsque ces hommes de Dieu ont chanté leur psaume du plus profond de leur cœur, comme des prières, comme des actions de grâce, des remerciements, des louanges. Quoi que cela était, ils l'ont apporté à Dieu. Oui, et tes pensées de salut envers nous. Ici, il n'est pas écrit « tes pensées de salut », mais il est écrit « tes pensées de salut envers nous ». À quoi nous servent toutes les pensées de salut si Dieu ne les avait pas pour toi et pour moi et ne les réaliserait pas avec toi et avec moi? Dans ce cas, cela ne nous sert à rien. Il continue avec tu « et tes pensées de salut envers nous ». Il a des pensées d'amour et de paix envers nous. Il a des pensées de salut envers nous. Et ces pensées de salut, il les a maintenant révélées à ceux qui ont reçu son salut, qui ont participé à son salut. Car les pensées salvatrices font partie du salut. Et tous ceux qui ont été sauvés écoutent et reçoivent ces pensées. Et tes pensées de salut envers nous. Ô Seigneur, mon Dieu, comme il a dû être touché dans son âme. Rien n'est comparable à toi. Si je voulais les raconter, elles dépassent. Leur nombre est grand. C'est ce que David exprime dans l'Ancien Testament. Que savait-il de tout ce que Paul devait écrire plus tard et de ce que l'Église du Nouveau Testament recevrait en bénédiction? Et pourtant, il a écrit « Leur nombre est grand ». Si nous ajoutons maintenant le Nouveau Testament, que dirons-nous alors? Que Dieu touche nos cœurs pour la louange. Qu'il nous montre une fois pour toutes qu'il nous a sortis du marécage boueux duquel nous ne pouvions pas sortir nous-mêmes, mais dans lequel nous nous sommes toujours de plus en plus enfoncés. Et qu'il a placé nos pieds, pas seulement sur le fondement, mais sur le fondement solide, sur le rocher. Et qu'il a donné la fermeté à nos pieds. Et il a mis dans nos bouches un nouveau cantique, un cantique de louange pour notre Dieu. Cher cœur, que le Seigneur réalise cela en toi et en moi. Amen. Que nous ne rendions pas seulement témoignage avec nos lèvres, mais que Dieu puisse rendre témoignage en faisant de sa parole un témoignage vivant en nous et par nous, par grâce. Amen. C'est possible et le Seigneur le fera. Que son saint nom soit loué et glorifié. Amen. Levons-nous pour adorer. Tel que je suis, tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul, ton sang me lave des péchés, ô agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, tel cela doit être, non pas ma force, mais toi seul, ton sang me lave tes péchés, ô agneau de Dieu, je viens, oui, je viens. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. Seigneur fidèle, que pouvons-nous dire? Tu nous as parlé. Ah, comme chacune de tes paroles est vraie. Fidèle Seigneur, tu veilles sur elle pour l'accomplir. Seigneur bien-aimé, nous avons entendu en ces jours les paroles des promesses divines de la bouche de ton prophète. Tu nous as ouvert les yeux. Tu nous as ouvert les cœurs. Tu as éveillé en nous une faim et une soif. Tu y as mis un désir. Et nous t'appelons, nous t'invoquons de la profondeur de nos cœurs. Entends notre cri, Seigneur. Fais que tout ce qui est écrit comme promesse divine devienne réalité en nous et au travers de nous. Fidèle Dieu, sans effort de notre part, nous voulons dire avec foi, Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta promesse. Alléluia. Loué sois-tu. Loué soit ton saint nom. Tu es un Dieu fidèle. Tu tiens ta parole et tu réalises tes promesses. Seigneur fidèle, continue à nous conduire vers l'accomplissement de ta parole en ces jours. Seigneur, que ta parole puisse devenir en nous une réalité divine. Amen. Que nous soyons des lettres écrites, lues par chaque homme. Nous te remercions et te louons au nom de Jésus. Amen. Amen.